Radio Barque, notre 27e et notre invité du jour. Donc, comme je le disais en tout début d'émission, Éric Parra, vous êtes adjoint au maire de la mairie, vous êtes chargé de la mairie de Narbonne, vous êtes chargé notamment du commerce, c'est le gros morceau, je pense, de votre délégation, mais vous en avez un certain nombre d'autres, dont le port fluvial. Je pense qu'il serait intéressant également de l'évoquer. Tout d'abord, donc, c'est une première puisque nous avons un conseiller municipal, conseiller municipal et adjoint au maire Nouveau-Narbonne pour répondre à ces questions. Alors, tout d'abord, le commerce. On va évoquer le commerce du centre-ville qui, comme partout, a des problèmes. Et quand vous êtes arrivé à cette délégation, comment avez-vous un peu, Éric Parra, pris le taureau par les cornes en faisant le constat que tout le monde fait ?
Alors Jean-Claude, d'abord, je voudrais dire bonjour aux auditeurs de Grand Sud. Et avant d'intervenir, je souhaiterais tout de même, si tu me le permets, apporter un petit éclaircissement sur ma présence dans cette émission. C'est vrai que c'est une première et que mon groupe Nouveau-Narbonne avait jusqu'à présent refusé d'y participer, tout simplement parce que nous ne souhaitions pas donner écho à des propos qui avaient été tenus par les commentateurs et que nous jugions beaucoup trop éloignés de la réalité. Je note au passage que les leaders opposants socialistes, eux, n'ont pas eu le courage lors de leurs interventions de donner le contre-pied parfois au contre-regard, et que c'est l'opportunité pour moi et pour mon groupe ce matin, enfin, de pouvoir apporter aux auditeurs une information qui soit plus claire et plus proche de la réalité qu'elle ne l'est parfois.
Éric, vous êtes là, puisqu'il faut quand même rappeler que la politique de la chaise vide est toujours un petit peu dangereuse. Mm-hmm. Donc vous êtes là, on vous écoute et vous allez pouvoir dire ce que vous voulez dire. Alors, bien, concernant le commerce du centre-ville, il est un petit peu comme partout ailleurs, il a des problèmes parce que c'est le centre-ville.
Alors, disons que le problème pour le commerce de proximité du centre-ville, il faut dire les choses comme elles sont. On est dans un climat économique national qui est assez tendu. Et bien sûr, la ville de Narbonne n'échappe pas et son économie n'y échappe pas non plus. Malgré cela, il y a quand même des pointeurs qui sont intéressants. Je pense notamment au classement Procos pour la vacance des commerces en centre-ville. Je rappelle aux auditeurs que c'est un classement national qui nous indique en fait le nombre de commerces qui sont fermés dans le centre-ville. Alors, la moyenne est de 10% environ quand on est au-dessus.
Au niveau national.
C'est pas bon. National.
Hein.
Oui. Et à Narbonne, quand on est au-dessus, c'est pas bon du tout. En dessous, c'est pas mal. Narbonne, on est légèrement en dessous, ce qui reste quand même une bonne nouvelle. Mais ça nous oblige malgré tout à rester très vigilants et à multiplier les actions ou des opérations pour le soutenir. Alors ça se traduit de diverses façons. Depuis notre arrivée aux affaires, on a notamment créé l'office du commerce pour qu'il puisse pour que ce soit un outil qui puisse venir en aide au tissu socio-professionnel qui est visé, mais également en encourageant les opérations commerciales. Je pense notamment à la multiplication des salons professionnels que l'on voit fleurir en ville ou en centre-ville. Je pense notamment au salon de l'automobile d'occasion, au salon du mariage et au salon du vintage qui a battu au mois de septembre tous les records. Et à côté de ça, on a aussi mis en place depuis très peu de temps un tableau de bord qui est l'observatoire des activités commerciales de la ville. Ça, c'est un outil qui est très très local et qui permet et à la ville et aux associations de commerçants de pouvoir réguler leur action pour essayer d'être le plus compétitif possible.
Cet observatoire, vous l'avez mis en place, donc récemment, il donne des premiers résultats.
On a cet observatoire qui est porté par l'Office, a exprimé des premiers résultats après une opération commerciale qui est totalement inédite, et qui est la braderie d'hiver, qui a été organisée au mois de février dernier et qui nous a donné, donc l'Office du commerce a donné les premiers chiffres qui étaient très intéressants. Effectivement, ça valait le coup d'organiser cette opération en plein hiver, qui est une opération en fait qui est tissée sur la braderie d'été, sur le même format. Et effectivement, les chiffres étaient plutôt bons, plutôt encourageants.
Voilà, donc des actions et un instrument de mesure important qui va permettre dans les années qui viennent de voir si vous réussissez ou s'il faut rectifier le tir en quelque sorte. Vous êtes également... Alors, il y a un sujet d'actualité qu'on ne peut pas passer sous silence, évidemment, qui est le pont de Carcassonne. Oui. Je crois que ça fait partie de vos délégations, ça, Eric?
Oui,
pas.
Oui, absolument.
Bon, alors, ce pont de Carcassonne, il y a des rumeurs qui courent, qui sont contradictoires. Vous essayez de lutter contre. Alors, dites-nous de quoi il retourne exactement sur cette prochaine réouverture.
Alors... Tu fais bien, Jean-Claude, de souligner la rumeur et les effets qu'elle peut avoir. Les travaux vont débuter le 3 mai prochain et se poursuivre jusqu'à l'entrée de l'été avec une réouverture probable à une échéance début du mois de juillet.
Alors, ce sont des travaux de renforcement provisoire.
Alors, ce sont des travaux, en fait, concrètement, bon, je vais pas rentrer dans les détails pour pas assommer nos auditeurs, hein, avec toute la technicité, mais en gros, on sécurise le pont, c'est-à-dire que le pilier qui est abîmé, on va y avoir des soutiens autour, sera renforcé pour permettre aux véhicules légers de pouvoir circuler.
Donc, véhicules légers, ça veut dire les voitures de tourisme?
Les voitures de tourisme, c'est-à-dire...
C'est-à-dire la grande majorité.
La grande majorité des gens qui utilisent le pont, et je dirais la grande majorité des gens qui souffrent.
Oui, bien entendu.
De la coupure de ce pont. Il faut absolument qu'on sorte de ce cauchemar. Ça a été un travail important. Hein, qui a été mené notamment par Didier Mouly, qui a obtenu et de l'État et de la SNCF qu'on puisse œuvrer pour sortir de ce cauchemar. Donc la priorité maintenant, elle est donnée, la priorité absolue donc aux usagers, usagers en véhicule léger. Et
donc,
puis
donc les travaux, ils vont durer quelques semaines. Vous avez une idée de la date d'ouverture prévue?
Non, alors je serais bien inspiré de vous donner une date précise. Je le ferai pas aujourd'hui. Ce serait pas sérieux. Donc évidemment, on espère que ce sera pas à la fin de l'été. Normalement, on devrait un tout début d'été pouvoir enfin respirer.
Voilà. Et alors, une fois que ce pont est ouvert, il est ouvert pour plusieurs années.
Alors voilà, c'est donc pour revenir à mon propos, on a eu un gros souci à travers les réseaux sociaux, à travers une rumeur comme ça qui a enflé, qui nous expliquait que voilà, qu'en gros on ouvrait le pont pour 2 mois et qu'on refermait à la fin de l'été. Et quand la presse locale m'a saisi pour qu'on en discute, j'ai moi saisi l'occasion pour remettre les pendules à l'heure et expliquer que non, et je le dis encore à cette antenne, le pont va réouvrir de façon pérenne, puisque l'objectif, c'est de pouvoir retravailler sur la structure et permettre à des véhicules plus lourds de pouvoir circuler donc aux horizons 2023. Donc le pont, là, il ouvre. On pourra l'utiliser 2022. On interviendra à nouveau, on refermera pour intervenir à nouveau et permettre aux poids lourds de pouvoir circuler. Aujourd'hui, je vous dirais que, pour revenir sur ce que j'ai déjà dit, la priorité, elle est donnée aux usagers, aux véhicules légers. Mmh. Et je ne parle pas que pour les Narbonnais. Pour les gens du territoire.
Toute la Narbonnaise est concernée.
Toute la Narbonnaise est concernée. On parlait de commerce tout à l'heure. Vous avez vu qu'il y a eu quand même des effets très négatifs sur les commerces.
Les
commerces qui sont à proximité directe du pont. Mais il y a aussi un impact sur l'économie de la ville. Il était donc urgent qu'on sorte de cette situation.
Alors, Éric Parra, vous êtes également adjoint au port fluvial. Oui. Narbonne a un port fluvial, il faut le rappeler, grâce à la Robine.
Très actif.
ça concerne quoi exactement, toute la partie centrale de la Robine?
Alors, en gros, on a... alors, pour que les auditeurs comprennent bien aussi, le canal n'appartient pas à la ville, ce sont les berges. Voilà, c'est VNF, Voies Navigables de France, et on a la ville a une concession pour les berges et pour l'administration d'une partie, en gros, Moulin du Gard, le théâtre.
Oui, la partie urbanisée, quoi, on va dire.
C'est une activité qui est intéressante, hein, puisque du mois de mars au mois d'octobre, on a tout de même 1500 navires qui traversent notre ville. En majorité, ce sont que des navires de plaisance. Hein, donc il y a un impact aussi touristique. C'est une cinquantaine de bateaux qui sont amarrés à l'année. Et donc ça rapporte de l'argent à la ville, mais ça demande aussi un entretien régulier.
Voilà. Et alors ce port fluvial a fait parler de lui récemment, sans le vouloir probablement, à cause de fuites, de mauvaises odeurs, de problèmes sanitaires, on va dire. Alors, entrons dans le détail.
Alors je suis très heureux de pouvoir m'exprimer sur le sujet là-dessus, puisqu'il y a quelque temps sur cette antenne, Michel Santo, vous étiez étonné que je saisisse le Grand Narbonne, hein, à travers un courrier de mise en demeure pour qu'enfin il puisse participer aux travaux qui étaient nécessaires pour l'écoulement des eaux usées. Et vous aviez dit à ce moment-là que j'avais du nez, puisque sur la rue du Pont du Marchand, les odeurs qui pouvaient provenir du secteur étaient certainement liées à des fientes de pigeons. Ben, c'était pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas.
Alors, que se passait-il?
Alors, en fait, vous avez un réseau.
J'avais dit ça, je croyais que je m'étais surtout attardé sur la communication, en fait, de part et d'autre de la.
Non, ça c'était après.
Revenons sur le fond du problème.
Alors, pour revenir sur le fond du problème, alors d'abord, j'avais légitimité pour le faire, puisqu'effectivement, le canal est sous ma responsabilité. Et ensuite, on a, si vous voulez, des conduits des eaux usées, des eaux d'égout, qui sont partagés avec des conduits d'eau pluviale. Donc, si vous voulez que l'eau de pluie se déverse dans le canal, c'est pas un problème. En revanche, que les eaux usées,
normalement vers la station d'épuration.
Voilà, tombent dans le canal.
C'est de la compétence de l'agglo.
Et voilà, dans ces compétences de l'agglo. Alors pour que les gens comprennent bien, les eaux pluviales, c'est compétence de la ville. Les eaux usées, c'est compétence de l'agglo.
Voilà, ce qui rend les choses très simples.
oui, mais en même temps, s'agissant quand même d'un problème de salubrité. De salubrité publique, hein, et environnementale, il était temps quand même de pouvoir agir. Il a fallu un peu taper du pied pour y arriver. Heureusement, on y est arrivé. Les travaux ont débuté. Pour vous donner un ordre d'idée sur l'importance de ces travaux, quand vous parliez d'odeur de fientes de pigeons, sachez que c'était des gaz. C'est des gaz qui sortaient à cet endroit. Quand les professionnels qui sont intervenus sur le site ont opéré, pour faire leurs travaux, ils avaient des capteurs avec une limite à ne pas atteindre, où il fallait qu'ils évacuent les conduits.
Et des gaz produits par quoi?
Des gaz qui sont produits par les eaux usées. Donc vous imaginez bien que c'était absolument plus tenable et qu'il fallait vraiment agir pour ça. On ne pouvait pas laisser la situation perdurer. C'est dommage qu'il ait fallu un petit peu durcir le ton avec
voilà, alors justement, avec l'agglo, j'ironisais en disant que c'est simple dans les relations avec l'agglomération. C'est pas simple du tout, justement. Non, et vous avez besoin de vous mettre d'accord, puisque les compétences sont partagées.
Au pluvial, au usé.
Avec une remarque, en fait, supplémentaire, en fait, si tu le permets, Jean-Claude, c'est que bien avant, en fait, que ces opérations se fassent, je me souviens, en fait, avoir discuté cette question avec un propriétaire, justement, qui est commerçant, en fait, de la rue du Pont. Car l'obstacle principal, en fait, aux travaux en question ne venait pas des institutions en question, ni de la vôtre, d'ailleurs, ni du Grand Narbonne. C'était effectivement les propriétaires qui refusaient, effectivement, les devis en fait, proposés par Veolia pour, justement, régler le problème en question.
Alors, Éric Parral, comment avez-vous résolu ce problème ?
Avec du bon sens. Avec du bon sens, parce que, vous savez, c'est une question d'intérêt général. Il n'y a pas de politique. On en parlait avec du Grand Narbonne. On nous reproche souvent, et je ne comprends pas pourquoi, de dire qu'on ne souhaite pas travailler en accord avec l'agglo. C'est faux. C'est faux, on le voit très bien sur ce dossier. Tout le monde se met au boulot pour l'intérêt collectif, pour les Narbonnais. Alors, il y a une participation de la ville qui est à 60%, 40% pour le Grand Narbonne, mais je vous dirais que peu importe. Hein. C'est l'intérêt, c'est de pouvoir avoir un cours d'eau qui soit propre. Hein. Et qui passent des problèmes qui vont jusqu'à être à la limite du danger pour le public. Mmh. Alors ça c'était pour
donc
le
bisbilles politiciennes ici doivent s'effacer devant l'état sanitaire de
Jean-Claude
de
c'est l'intérêt collectif qui prime. C'est l'intérêt collectif qui prime sur ce dossier ou sur d'autres.
Oui, alors à propos d'autres dossiers, la ville de Narbonne, vous avez fait un nouveau parking à Maraussan, tout près de l'espace de liberté, bon, qui fonctionne, qui a commencé à fonctionner récemment. D'après ce que nous avons entendu, il n'y a pas d'arrêt de bus à proximité de ce parking, ce qui serait pourtant très utile, puisque ce parking doit permettre de rejoindre l'hôpital, le centre-ville, le plan Saint-Paul, par exemple. Et je me suis laissé dire que là encore, ça aurait été des problèmes de mésentente à Glo-Ville. Qu'en est-il ?
Alors, pour revenir sur ce parking, la présence d'un arrêt de bus, elle est prévue. Hein. C'est un parking qui ne se suffit pas à lui-même, hein, même s'il est il rayonne sur le secteur. On peut entendre et comprendre que certains usagers peuvent venir se garer sur ce parking pour aller sur le skatepark qu'on a mis en place ces dernières années, au gymnase.
Oui, et puis ça peut délester aussi l'espace de liberté.
Mais il faut, en complément, qu'il puisse aussi soulager les tensions qu'on a proche du marché et sur l'hôpital. Effectivement, là, on ne peut pas y arriver, seul. Il faut que l'agglo participe avec nous et pas pour nous. On est bien d'accord pour l'intérêt général, en doublant la navette hein, et faire une circulaire sur la ville du secteur. Ça manque.
Oui.
Ça manque. Les Narbonnais en ont besoin.
Bon, mais ça, est-ce que c'est à l'étude en cours ?
Alors,
on aurait pu penser que ça coïncidait avec l'ouverture du
parking. S'il a fallu être un peu ferme pour le canal, là, pour l'instant, on est en discussion. Oui, moi, je souhaiterais rencontrer Monsieur le maire et mon équipe, hein, on souhaiterait rencontrer nos hommes pour discuter de ce point. J'ai bon espoir qu'on puisse arriver à travailler de concert.
Oui, Michel, une remarque ?
Oui, parce qu'il n'y a pas qu'une histoire de bus qui est évidente.
Il y a aussi la rue Racine.
Il y a aussi les pénétrantes. On ne peut pas concevoir ce genre de personnes.
Ce que tu appelles les pénétrantes.
Les pénétrantes, qui sont déterminantes. On ne peut pas à la fois concevoir ce type de parking et en même temps mettre de côté, en fait, je ne dis pas que c'est vous, en fait, qui l'avez mis de côté, quoi, hein, l'aspect transport, en fait, qui est évident, et en même temps, moi, le traitement des pénétrantes qui vont sur le centre-ville, et notamment sur le plan Saint-Paul, qui sont stratégiques. Je veux dire, si on règle pas ça, hein, même si on a un bus, en fait, qui alimente, ça ne réglera pas le problème.
C'est autre chose. Alors, la rue Racine, avez-vous des projets là-dessus?
Là, c'est une compétence communale.
Évidemment. Et évidemment qu'il y a des projets sur la rue Racine, sur la rue du Bourget. Mais c'est bien parce qu'on voit qu'il s'agit, si vous voulez, d'une vision globale. Le transport, l'aménagement, et qu'il s'agit nécessairement d'un travail de concert, d'un travail d'équipe. Donc une fois de plus, main tendue au Grand Narbonne pour l'intérêt général.
Oui, mais pour la rue Racine, ça relève plutôt de la ville.
Mais il n'y a absolument aucun souci avec ça. Il y a des projets qui sont en cours, on y travaille très sérieusement.
D'aménagement de la voirie, enfin de la chaussée, quoi, disons.
De la chaussée, et y compris sur un secteur plus élargi, et jusqu'à la rue du Bourget, qu'on a bien besoin, aussi.
Oui, ce que Michel Santo appelle la pénétrante. Là.
Oui, voilà, c'est ça.
Ce qui m'amène d'ailleurs à faire une observation, mais qui me paraît là aussi hein, évident, c'est que dans ce genre d'affaires, en fait, on ne peut pas traiter les problèmes séparément et par tranches successives. Quoi. Il me semble qu'à l'évidence, il faudrait se mettre autour d'une table et mettre au point effectivement un plan stratégique, effectivement, qui concerne les transports et notamment en fait la circulation vers le centre-ville et qui implique effectivement de traiter avec le partenaire agglo l'ensemble des problèmes.
Bah écoutez, souhaitons que parmi les auditeurs, on est le président de l'agglo qui nous entende et qui réagisse vite et qu'on puisse se rencontrer très prochainement pour en discuter et travailler.
Et alors pour les bus, ce que vous devez voir, vous devez rencontrer le vice-président chargé des transports, Édouard Rocher, si je comprends bien.
Écoutez, peu importe qui on rencontrera tant qu'on travaillera.
Il faut rencontrer les gens compétents et responsables de ce secteur.
Absolument. Tant qu'on travaillera dans chacun dans l'intérêt général, je crois que c'est ce que les gens attendent de nous.
Oui, donc pour le moment, vous avez lancé un appel et vous attendez que...
Oui, enfin, sur ce dossier comme sur plein d'autres. Hein.
Je me demande d'ailleurs, Jean-Claude, si la prochaine fois, il ne faudra pas inviter, en fait, quand on a invité comme Eric Parra, en fait, ou un autre de l'agglo d'ailleurs, oui. Son homologue de la ville de Narbonne,
pour se retrouver. Son homologue pour arriver
avec plaisir. Avec plaisir.
Et alors, vous avez aussi, j'avais entendu dire ou vu quelque part, que vous entendez revoir entièrement le stationnement sur la ville.
Oui.
Qu'en est-il ?
Pour l'instant, on est sur de la consultation parce que, je l'avais dit dans la presse, il s'agit quand même de points qui sont extrêmement importants. Alors, je ne veux pas parler de révolution sur le stationnement, mais on est quand même sur des changements et des bouleversements significatifs. On a le législateur qui modifie totalement son cadre et dès 2018, on aura une dépénalisation pour les procès-verbaux liés au stationnement sur les zones payantes. Donc, il faut s'y préparer. Il faut s'y préparer. Il faut avoir du matériel adapté d'abord. Et puis ensuite, il faut repenser. Il faut repenser la politique de stationnement en ville. Et puis, on ne va pas la penser tout seul. Hein. On a avec Monsieur le maire, Didier Mouly, nous avons réuni les conseils citoyens et les associations de commerçants.
Mais là, vous n'avez pas besoin de l'agglo.
Bah, écoutez, pour le coup, il s'agit de notre compétence, donc.
C'est pour ça que je le fais. Revenir.
Non, mais si on avait besoin d'eux pour ce dossier ou n'importe quel autre dossier, on leur ferait savoir. Mais c'est ce qu'on fait systématiquement. Vous savez, c'est voilà l'intérêt aussi de participer à une mission comme la vôtre. Et quand on entend des gens dans l'opposition qui disent qu'on veut non, on peut pas traiter avec nous, qu'on peut pas discuter ou travailler, c'est faux. C'est faux, non. Là, on est vraiment, là, je vous le confirme, sur ce dossier, enfin, sur divers dossiers, nous sommes en demande, oui, de travailler avec eux. Alors, pour revenir sur le stationnement, pour l'instant, l'idée, eh bien, c'est de pouvoir consulter au maximum les citoyens et les commerçants et pouvoir se préparer, donc, au changement du cadre législatif et en même temps, opérer sur la politique de stationnement en ville qui en a, pour le coup, réellement besoin.
Eh bien, merci Eric Parra, c'est là-dessus que nous allons conclure. Alors, je rappelle que vous lancez un certain nombre d'appels dont nous espérons qu'ils seront entendus. La semaine prochaine, nous parlerons d'écologie, de traitement des nitrates et tutti quanti avec André Bory, qui est le responsable de l'association Rubresus. Citons également nos prochains invités, Marie Batte et Michel Py, et puis d'autres un petit peu plus tard. Catherine Bossis étant également prévue au mois de juin. Merci encore de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.